Le film que vous allez regarder est un documentaire qui retrace l'année 2023 à travers les yeux de l'émission Backseat. On va essayer de vous montrer comment notre émission a essayé de suivre, de traiter cette année politique très particulière. Ce documentaire, il a été rendu possible grâce aux dons, grâce au soutien, grâce aux abonnements de notre communauté. Vous aussi, rejoignez-les, rendez possible cette émission Backseat chaque jeudi. Le lien est en description et je vous souhaite une très bonne vidéo.
Bonsoir.
Comme tous les jeudis, on va parler de politique, chers amis.
Chaque semaine, c'est un pari qu'on fait, c'est une tentative, pas toujours réussie d'ailleurs, mais de retranscrire la réalité du paysage politique, de ses tensions.
La politique, c'est du conflit. Hein. Et ce dont on parle, c'est des lois.
Le but, c'est de montrer la réalité du travail d'une émission comme Backseat. On essaye d'être les témoins du temps politique.
Cette fameuse phrase de « la démocratie est malade », en fait, pour moi, elle est dépassée.
Ça a été une année d'embrasement. On a commencé directement dans le feu de la contestation de la réforme des retraites.
Comment vous, vraiment, sincèrement, vous pouvez vous regarder dans la glace le matin en vous disant « je suis de gauche » et aller tous les jours...
Ça a été un embrasement dans la rue, ça a été un embrasement à l'Assemblée nationale, dans tout le paysage politique.
Je suis très très heureuse de vous retrouver. Alors non, ce n'est pas Jean qui va de mieux en mieux et qui finit sa convalescence avant de revenir en pleine forme tout bientôt.
Et donc, en décembre, malheureusement, j'ai été rattrapé par la maladie et j'ai fait un épisode dépressif très très grave qui m'a conduit jusqu'à l'hôpital. J'étais complètement cramé et il faut reconnaître que l'année politique 2023 a joué un rôle important dans mon état de santé à la fin de l'année. On est au début de l'année 2023, le mouvement contre la réforme des retraites se structure et une première journée de mobilisation est déclarée à Paris. Moi, j'y vais physiquement pour prendre le pouls, pour voir un peu comment ça se passe. Je vois une marée humaine. La manifestation n'arrive pas à avancer, elle est bloquée tellement il y a de monde près de la place de la République et je sens bien qu'il est en train de se passer quelque chose de majeur du point de vue de l'actualité.
Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un mouvement social aussi fort, avec autant de monde et avec une variété d'âge aussi. Des familles entières qui venaient manifester. Nous, on a revu des enfants qui étaient là avec leurs parents qui étaient fiers de leur montrer ce que c'était un mouvement social. Ça s'était un peu tari avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment, où il y avait eu pas mal de violences. Là, c'était plutôt, dans l'ensemble, un mouvement avec une ambiance bon enfant. À l'époque de la réforme des retraites, j'étais JRI, donc journaliste reporter d'image, au sein du service politique de l'AFP. Je devais suivre les leaders politiques qui étaient là. Eux aussi affichaient leur unité au sein de la NUPES. Donc il y avait à la fois Marine Tondelier pour ELV, Olivier Faure au PS, des gens de LFI, des gens du PC. Et ils ont essayé d'afficher aussi leur unité avec le Front syndical. Ils ont voulu aller les saluer, aller en tête de cortège. Il y a eu un petit moment d'hésitation, on les a suivis dans la foule, finalement ils ont fait demi-tour, ils ne se sont jamais serré la main avec les leaders syndicaux et ils sont restés de leur côté. Et ça c'était drôle à voir, de voir l'organisation qui prenait la tête du mouvement en fait.
Évidemment pour nous il y avait un peu de pression, hein. Pour deux raisons, parce que la retraite c'est toujours un sujet qui a mobilisé dans ce pays. Et puis la deuxième chose c'est l'unité syndicale. Tout le monde pensait que c'était impossible que la CFDT et la CGT se retrouvent ensemble dans la rue.
Je quitte la manifestation et je me rends à pied au studio de Backseat. Et c'est à cette émission-là qu'on a reçu Philippe Martinez. Le visage de cette mobilisation nationale était sur le plateau de Backseat et n'était pas sur d'autres plateaux de télévision ou de radio.
Nous recevons l'homme qui fait l'actualité du jour et de la semaine, et peut-être des semaines qui viennent, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.
J'avais rien à faire aujourd'hui, donc.
Ouais. J'ai pas les chiffres. Alors, est-ce qu'on joue au jeu des chiffres?
On joue au jeu des chiffres.
Ou est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas, il y avait combien de manifestants
Alors, selon la police ou selon les organisateurs?
Selon les organisateurs, à commencer par.
C'est l'organisateur, donc je préfère donner les miens.
Bah, donnez-vous
les miens. 2 120 000. Et un peu plus, et quelques unités supplémentaires.
Quelques unités qu'on embrasse.
Et on va quand même donner la police, parce que sinon Darmanin va faire la tête. Donc 1 120 000 selon la police.
J'avais trouvé intéressant de venir m'adresser ici, enfin répondre aux questions ici. Je me suis pas fait que des amis dans les grandes rédactions médiatiques, mais je trouvais intéressant de m'adresser au public de Baxit parce qu'il y avait un vrai enjeu de ne pas tomber dans les caricatures que les jeunes ne s'intéressent pas à leur avenir et notamment aux retraites. Les jeunes ne s'intéressent pas au syndicalisme.
Bienvenue sur le plateau de Baxit, Manès, lycéen en classe de seconde, 15 ans au lycée Voltaire, si je dis pas... Non, lycée Buffon. Au lycée Buffon. Vraie question, est-ce qu'on te tutoie ou est-ce qu'on te vouvoie? Est-ce que je vous tutoie ou est-ce que je vous vouvoie? C'est une vraie question que je me pose quand on a préparé cette émission.
Mais on peut se tutoyer, on peut même s'appeler camarade, si tu veux.
Je m'appelle Manès Nadel, je suis syndicaliste lycéen. J'étais présent notamment pendant le mouvement contre la réforme des retraites.
Tu es devenu un symbole d'une mobilisation de la jeunesse, braquant sur toi les caméras, braquant sur toi les commentaires. Y compris très négatif de la part de gens, on l'a dit tout à l'heure, qui pensent que les jeunes ne devraient pas se mobiliser. T'as aussi eu un traitement médiatique qui s'est moqué de toi, je pense à Quotidien. C'est quelque chose... Ouais, tu l'as vécu comment ?
Bah, ça dépend. Le Quotidien, c'est de la moquerie. Bah, après, ça va avec la ligne de l'émission, mais j'ai pas trouvé ça si méchant que ça en soi.
Non, franchement, ça allait, je trouve.
Voilà, être associé à Philippe Martinez, c'est pas méchant.
Tu te rends compte que tu vas être dragué assez rapidement par des organisations politiques. Bah, c'est comme ça que ça marche, en fait.
C'est pas déjà fait.
Ça, c'est déjà fait ou pas? T'as déjà été approché par. Approché, ça peut être gentil, hein, ça peut être.
Oui, j'ai eu des DM.
Voilà.
Bon, quel circo tu veux en 2027?
Et je voulais te remercier en vrai, Jean, de lui avoir posé la question au tout début du vouvoiement ou pas.
Pourquoi?
Parce que moi, j'étais dans la position de Manès quand j'avais son âge, il y a 12 ans, pour la réforme des retraites de 2010.
T'étais sur les plateaux?
J'ai fait des plateaux et j'étais avec un syndicat lycéen à l'époque. Et en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est pas forcément l'âge et le fait que Manès soit lycéen, mais que derrière aujourd'hui sa voix, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de s'inquiéter pour leur avenir.
Je m'appelle Malek Délégué, j'ai 28 ans. J'ai travaillé pour des politiques pendant 10 ans en les accompagnant sur leur communication. J'ai analysé ensuite la politique à la télévision pendant 3 ans, ce que je fais aujourd'hui dans Baxit, je suis très content de le faire. Le jeune Malek d'Argenteuil, rien ne le prédestinait à et faire de la politique et faire des médias. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. J'ai jamais été fan du format scolaire classique, ce qui fait que j'ai un peu boycotté mon baccalauréat. C'est pas un exemple, mais c'est un parcours, comme j'ai à chaque fois, qui est possible. Quelques jours après, vu que j'avais déjà commencé à militer en politique depuis 3 ans, un député m'a proposé de l'accompagner à l'Assemblée nationale. Et donc, en réalité, je me suis formé à l'Assemblée nationale, à la communication politique. J'ai construit mon carnet d'adresse aussi, là-bas. Il y a eu ensuite cette étape avec la télévision. Et ensuite, je viens juste dépanner mon ami Jean sur un remplacement Baxit. Et puis au final, quand on est bien, quand on est libre, quand on se sent bien, quand on aime les gens, on reste.
Manès, c'est quoi la feuille de route aujourd'hui pour vous en organisation lycéenne dans les prochains jours, prochaines semaines?
Le plus important, c'est de montrer qu'on est ensemble, qu'il y a une vraie unité populaire. Enfin là, on voit des sondages où c'est 95% des actifs, une grande, grande majorité de la population. Donc la feuille de route, elle est très simple. Tant qu'il n'y a pas de retrait, on continue sur ce mode-là avec vraiment une masse de jeunes dans la rue aux côtés des organisations syndicales.
Coupez-leur leur retraite! Enfin, dans le jeu, évidemment. Dans le jeu.
J'engage la responsabilité de notre équipe éditoriale sur la diffusion de la séquence du jeu Koulos.
Bouh !
Bravo !
Bouh ! C'est la seule solution. C'est malheureusement la seule solution si on veut garder le système actuel.
Je voulais te dire ce que je pense de la réforme des retraites. Parce qu'ici, on a un cul énorme, je suis un zèbre. La réforme des retraites, pour moi, en France en tout cas, ça a été un des grands défis politiques les plus importants pour le gouvernement actuel. Merde, attendez.
C'est la CGT qui fait ça et qui, en gros, permet d'avoir une réserve pour tous les grévistes qui, eux, se mettent dans le rouge.
L'année 2023, d'un point de vue de la politique et des influenceurs, a forcément été particulière. Bon, c'est pas la première fois que ces deux milieux s'entrechoquent. Il y a eu des élections présidentielles par le passé. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu plein de marqueurs qui font que, peut-être, on est en train de voir le début d'une bascule sur ces deux milieux.
En quelques semaines, Emmanuel Macron, avec la réforme des retraites, mais pas que, mais aussi avec le coup de force, a réussi à mobiliser Ruffin, Valo, De Courson,
Léna Situation,
Inox Tag, SCH, Amine Bibi,
Vianney. Ils ont énervé Vianney.
Jonathan Cohen.
C'est
extraordinaire.
C'est Usul que j'ai vu la semaine dernière sur son portable qui fait waouh, ils nous ont énervé Léna Situation.
La France en colère! Les femmes, les femmes.
On a vu tout un tas de personnalités assez fortes et il y en a même qui sont allés en manifestation. C'était le cas de Nota Bene. Il y a même Maxime Biaggi, il a fait une story où il se montre en manifestation. Après, il faut aussi pas oublier que des fois, il peut y avoir un peu d'opportunisme. C'est-à-dire que quand t'as une réforme comme ça qui est aussi impopulaire, le fait de s'exprimer publiquement contre cette réforme, forcément, ça peut aussi te permettre de gagner des points en popularité.
Bonjour ! Bonjour tout le monde, bonjour ! Bonjour
à toutes et néanmoins à toutes. Bienvenue, bonjour ! Comment ça va ?
Le rapport que j'ai avec mon audience, c'est un rapport complice. Grâce au chat qui défile et aux messages qu'il y a dans le chat, je vois bien quelle est l'ambiance, je vois bien quelle est l'humeur. Et moi, j'en ris, en fait, je détends l'atmosphère, j'en parle, je montre que la politique est accessible. Ce serait trop facile de faire du costume cravate, du Sciences Po TV. C'est pas du tout ce que je veux, c'est tout l'inverse.
Madame
Bertrand Pancher,
Première ministre, pour la première fois, je manifesterai ce jeudi contre la réforme des retraites.
Bertrand Pancher, il a 64 ans, il est député de la Meuse, il est directeur du développement d'une société d'archivage. Bertrand Pancher, c'est un député centriste qui préside le groupe Les Indépendants Outre-mer et Territoire, LIOT, qui est un groupe un petit peu particulier à l'Assemblée nationale, composé de députés qui viennent d'un peu partout.
J'ai les gens à travailler plus longtemps alors qu'ils sont...
Peu importe, Bertrand Pancher qui pose sa question au gouvernement et qui en profite pour taper très fort sur la réforme des retraites en expliquant pourquoi il s'y oppose.
Moi, je commente l'Assemblée nationale comme si c'était un match de foot ou une partie de jeu vidéo. Et donc, par mes commentaires, j'apporte du contexte, j'apporte de l'explication sur qui sont les acteurs, pourquoi il se passe ça, pourquoi un tel est en train de parler de ça. Et ça, ça offre du coup au public la possibilité de se raccrocher au wagon, parce que sans ça, l'Assemblée nationale, c'est très aride. La politique, c'est très aride et c'est même très chiant. Donc il y a parfois besoin d'avoir un coup de pouce, et c'est mon rôle de venir aider le public dans sa compréhension.
Elisabeth Borne qui répond à Mathilde Panot. Et vous entendez les applaudissements de la majorité qui soutiennent la Première ministre.
Assassin, c'est l'insulte qu'a hurlé l'un de vos députés en attaquant le ministre du Travail. Traître, dégoût, fureur, ce sont vos paroles hier dans un registre haineux qui est désormais votre habitude.
Oh, s'il vous plaît.
Censure populaire, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon appelant au soulèvement face au Parlement. Madame la présidente Panot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences.
Elisabeth Borne qui accuse les insoumis indirectement d'inciter aux violences.
Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme.
Olivier Dussopt, au bout de sa vie, au bout de sa voix en tout cas.
Ce matin par la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi.
L'ambiance est particulièrement tendue. Ces débats sont marqués par un niveau de tension assez stratosphérique à l'Assemblée nationale. On va en discuter, je voudrais un peu avoir vos regards là-dessus. On a entendu parler notamment d'exclusion d'un député, M. Porte, pour une photo malheureuse sur Internet où il posait avec un ballon de foot à l'effigie du visage du ministre Olivier Dussopt qui porte cette réforme.
Cette stratégie de la bordélisation, on sait qu'elle vient essentiellement des députés insoumis.
De quelques députés insoumis.
Et le problème, c'est qu'on sent qu'au sein de la NUPES, ça commence à casser les pieds, en fait. Pour parler un peu grossièrement, c'est-à-dire que André Chassaigne, chef de file des communistes, a dit « je suis choqué par l'attitude de certains insoumis ».
Ils n'ont pas la même culture parlementaire non plus, voilà, hein, c'est très intéressant.
La politique, c'est du conflit. Hein. Et ce dont on parle, là, c'est des lois dont les résultats peuvent être d'une violence extrême sur la vie et sur le corps des gens. Donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une intensité dans les débats en ce moment à l'Assemblée, parce que là, même statistiquement, ce qui va se passer si cette loi passe, c'est que des gens vont mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite.
Moi, c'est Claire Lejeune. Je me définirais comme militante écologiste. Je suis aussi en doctorat de théorie politique. Je dirais que ma politisation, elle me vient de mon père. Donc, mon père est ouvrier, électricien, était. Et en fait, j'ai grandi un peu avec un de mes parents qui se levait très tôt, qui revenait très tard, qui était physiquement et psychologiquement épuisé par son travail. Du coup, c'est l'entrée sociale et l'entrée, vraiment, l'ancrage à gauche qui, d'abord, a fait que j'ai eu la volonté de changer les choses.
Je continue à m'interroger à haute voix sur la réelle importance que tiennent les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour les gens. À part les passionnés de politique, est-ce que les gens, ça les intéresse vraiment? Je ne sais pas. Raphaël?
Non, c'est une question intéressante et je pense qu'elle est liée à la question de la violence, en fait. C'est que ce n'est pas tout à fait un hasard qu'il y a eu des gilets jaunes dans un moment où l'Assemblée nationale n'était pas perçue comme étant très représentative et où les débats se passaient à l'Assemblée nationale. C'est qu'il existe quand même une théorie à laquelle j'adhère assez. C'est l'idée selon laquelle l'Assemblée nationale sert aussi de catharsis symbolique, quoi. C'est-à-dire que c'est le moment où les gens, mine de rien, se disent « il y a quand même des gens qui me représentent et qui portent ma voix au plus haut sommet des débats politiques ».
Je vois le côté cathartique dont tu parles, c'est-à-dire que les étudiants ont vu un Louis Boyard hurler dans l'hémicycle et ça leur a probablement fait du bien à beaucoup d'entre eux de se dire « ah bah ». En fait, ça réconcilie beaucoup les gens avec la République et la démocratie, de dire « ah bah, au moins, lui, il me représente, une Rachel Kéké, un Ruffin ». Et de l'autre côté aussi, les gens favorables à la réforme ou au maintien de l'ordre et tout, ils entendent aussi des députés, les Républicains ou Renaissance, dire « non au chaos ».
Je sais pas, vous avez, franchement, je pense que vous avez le nez dedans, et pour vous, c'est important, je pense que pour la majorité des gens… ils suivent l'info la plupart du temps aux 20h, hein, pour la plus grande partie des gens, c'est comme ça qu'ils s'informent. Et
précisément, il y a des capsules de 30 secondes.
Oui, c'est ça, voilà, une capsule de 30 secondes.
Où il y a le combat politique qui est mené à l'écran.
Oui, mais non, mais eux, ce qu'ils voient, c'est les décisions prises derrière et ils voient Macron qui fait ce qu'il veut. Donc, qu'ils aient l'impression d'être représentés. À la limite, ils ont même l'impression qu'en fait, il y a des gens qui gueulent pour eux, mais pour rien, et que ça sert à rien de toute façon, que cette assemblée, elle sert toujours à rien, alors même qu'il a une majorité relative. Et non, il y a un agacement, du politique. Ils ont toujours l'impression de subir le politique. La catharsis, je vois l'idée, hein, de la représentation nationale. Elle représente, c'est une espèce de mini-France qui représenterait les tendances. Mais si au final, c'est juste du jeu, un petit peu comme on peut regarder la Convention citoyenne pour le climat, génial, c'était une mini-France, elle a proposé des mini-trucs, et puis derrière, non, elle a proposé des grands trucs, et ça a débouché sur des mini-trucs, et ce que regardent les gens derrière, c'est quoi les décisions prises, dans quelle société ils vivent, quel est l'état de leur travail, jusqu'à combien de temps ils vont bosser, et là, ça change pas grand-chose que Rachel Kéké ait fait un beau discours ou non.
À ce moment-là, si tu penses ça, ça sert à rien de vouloir qu'il y ait une meilleure représentation de la société française à l'Assemblée nationale, tu veux. C'est quand même un sujet, le fait que l'Assemblée nationale, il y a une sous-représentation de la classe ouvrière.
Eh bien bonjour, je m'appelle Chloé Ridel, je suis militante politique, porte-parole du Parti Socialiste et j'ai été chroniqueuse à Baxit.
J'ai appris comme tout le monde dans les médias que Chloé Ridel était propulsée porte-parole du Parti Socialiste. J'étais contente pour elle parce que je crois que c'était un objectif qu'elle se fixait. J'étais aussi un peu triste parce que ça veut dire qu'on allait la perdre comme chroniqueuse. J'ai toujours fixé la règle que je ne veux pas que mes chroniqueurs et mes chroniqueuses aient une parole contrainte. Mais ça nous a permis, pour le coup, de réinviter Chloé Ridel, mais cette fois-ci comme invitée. On recevait la porte-parole du Parti Socialiste comme invitée dans l'émission Backseat parce qu'on avait des questions à lui poser avec sa nouvelle casquette de porte-parole.
Et nous accueillons sur ce plateau deux personnes extraordinaires qui ont accepté notre invitation et que je remercie. On retrouve Chloé Ridel. Salut Chloé.
Bonsoir, salut.
Ça va Chloé?
Ouais, super heureuse d'être de retour sur ce plateau de Backseat dans une autre position.
Ben ouais, qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenue porte-parole du Parti Socialiste.
En l'espace de quelques jours.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries, raconte?
C'est la réforme des retraites qui m'est montée au cerveau, je pense, c'est la mobilisation.
Et donc, nommée le week-end dernier porte-parole du PS.
J'ai été nommée le week-end dernier porte-parole du PS. Moi, ça faisait plusieurs années que j'étais engagée dans le secteur associatif, dans le monde des idées. Et donc, je prolonge mon engagement autrement aujourd'hui au PS parce que c'est un parti qui s'est déjà ouvert au rassemblement des gauches.
Oh, putain, Olivier Faure. Tellement porte-parole. Oh là là, t'es tellement porte-parole.
Mais non, mais c'est vrai, j'y crois. Moi, j'y crois à fond à ça.
Moi, j'ai accepté d'intervenir dans Backseat parce que je trouve que c'était une émission par les jeunes, pour les jeunes. Pour les jeunes, notamment éloignée de la politique. Et la liberté qu'on avait dans cette émission, je l'ai trouvée folle, avec une capacité quand même de proposer des contenus hyper sérieux, avec aussi des sujets de société, le mix de tout ça, avec même de l'humour.
C'est parti pour la vie d'Adèle.
Ça soulève à The Question que se posent tous les journaux, radio, télé en ce moment, mais que se passe-t-il avec Aurélien Pradier?
Ben oui,
on se pose la question. Eh bien, vous le saurez en suivant la telenovela de l'année, la série événement de 2023, Los Republicanos. C'est une coproduction LCP Public Sénat, uniquement disponible sur la chaîne de Jean Massier. Et elle démarre sa 76e saison. Oui, parce que oui, l'ancêtre des LR, les amis, c'est le RPF, RFP, pardon, et ça a été fondé en 1947. Qu'entends-je ? Précédemment, dans Los Republicanos, le CEO de la multinationale France Incorporated Holding International, El Macron, a décidé de faire travailler ses employés plus longtemps. Il pique ainsi le projet du clan rival, Los Republicanos, qui dirigeait précédemment la même société, mais qui, en dépit des efforts inconsidérés de la Doña Valeria, baronesse de la RATP et proche amie de Beyoncé, ne réussirent pas à reprendre le pouvoir. Los Republicanos, aujourd'hui, sont déchirés. Déchirados. Entre leur haine d'El Macron et leur amour pour la retraite par répartition. C'était sans compter avec le jeune et impétueux Aureliano. Il ne peut se résoudre à accepter ce choix qu'il trouve injuste. Et s'il y a bien quelque chose qu'Aureliano n'aime pas, c'est la injusticia. Dans sa tête, le chaos, dois-je être fidèle à ma famille ou suis-je libre? Les dirigeants de mon clan sont vieillissants, ils n'ont même pas de compte TikTok. C'est à moi d'engager le bras de fer avec El Macron. Alors Don Bruno l'a pourtant averti, nous t'aimons comme un fils, Aurelianito. Mais si tu ne respectes pas les lois de la famille, tu seras repudiado. Mais Aureliano, qui a la tête dure comme Elisabeth Borne, et qui n'a surtout pas peur qu'on lui casse les dents, vous comprendrez les références peut-être plus tard, a annoncé qu'il ne céderait pas à la intimidation. Comme si ça lui en touchait une sans faire bouger la otra. Comment Los Republicanos réagiront-ils à ce cri de liberta? Aureliano annoncera-t-il sa démission du cartel et la Doña Valeria ira-t-elle au concert de Beyoncé? Vous le saurez en suivant le prochain épisode des Los Republicanos. Et vous le saurez aussi en écoutant l'interview de l'un des acteurs principaux de la série, tout de suite sur Backseat.
Quand j'ai commencé à dire sur les retraites, je ne suis pas d'accord, il faut qu'on corrige la question des carrières longues, pendant une semaine, tout le monde a dit « Pradi, c'est un emmerdeur, ce type, c'est un jusqu'au boutiste », j'ai eu quelques compliments de mes amis, vous voyez, qui disaient « Mais enfin, pourquoi il s'était pas, celui-là ?» Bon, on a obtenu qu'Elisabeth Borne bouge sur les 17 ans. C'est-à-dire ceux qui ont commencé à 17 ans vont faire 43 ans.
En fait, vous êtes meilleur que, que l'état-major de Républicains pour obtenir des trucs. Bah si, c'est un peu ça ce que vous nous dites.
Ne me demandez pas de répondre à cette question, j'ai déjà assez d'emmerdement depuis une semaine.
On embrasse la direction des Républicains qui regarde cette émission. Mais...
Aurélien Pradier, il est venu pendant la réforme des retraites. Et c'était le moment où il y avait une énorme saga chez les LR avec Aurélien Pradier qui ne prenait pas la même position que le reste du groupe, qui voulait se distinguer. Et qui était, il était menacé par le groupe d'être démis de ses fonctions de direction.
Si à 36 ans, vous pouvez vous déclarer candidat à la tête du parti, si vous pouvez presque seul contre tous dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision du parti, emmerder le gouvernement sur les carrières longues, etc., c'est parce que personne ne peut vous dire de la fermer.
C'est aussi... Non, mais c'est aussi... Alors, ça. Certains essayent, hein, je vous assure que c'est...
Oui, et on les embrasse d'ailleurs, mais... Oui,
moi je les embrasse beaucoup, je leur envoie beaucoup d'amour.
Non, mais on peut le dire, c'est aussi du côté du palais du Luxembourg, hein, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, qui vous ont même menacé de vous virer du parti.
Il n'y a qu'une carrière que j'ai grillée depuis deux semaines, c'est la carrière de sénateur. Je peux être absolument sûr que... Il y a peu de chances que je devienne.
Ça n'avait pas l'air d'être dans votre plan.
Il y a peu de chances que je devienne sénateur. Non, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à être libre. L'avantage, c'est qu'en effet, je peux garder cette liberté. Bon, il y a aussi quelques inconvénients à la liberté. Hein, c'est que vous prenez vos risques vous-même.
Et c'est vrai qu'il a été viré de ses fonctions de vice-président du parti LR juste après. Hasard, coïncidence, je ne sais pas.
Est-ce qu'Aurélien Pradier a perdu son poste suite à des propos qu'il a tenus sur le plateau de Backseat? C'est possible. Ou alors ça venait après un long chapelet de propos qu'il avait déjà tenus ailleurs.
Quand on vient sur Backseat, c'est peut-être qu'on a un tempérament où on aime un peu le débat et la contradiction. Je pense que c'est quand même plutôt bien en politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que pense ou dit Aurélien Pradier, mais je lui reconnais une certaine liberté et un certain courage. Donc je vous rassure, je ne crois pas que le fait que je ne sois plus au gouvernement alors que j'y étais quand j'ai fait mon dernier passage... soit lié à Backseat en soi.
Quand on invite quelqu'un sur le plateau de Backseat, le public suit ce qu'ils deviennent après. Et quand il leur arrive des malheurs, et ben du coup, on fait un lien avec Backseat. Et c'est comme ça que le public a inventé la malédiction Backseat, que je trouve très, très réelle. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? 49.3 annoncé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Excusez-moi, je suis en train de faire des réglages. Conseil des ministres convoqué. 49.3 annoncé. OMG! Ça y est, on a la réponse à la question. Putain, j'étais tranquille en train de faire des réglages et le gouvernement, il fait des conseils des ministres.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, J'engage la responsabilité de mon gouvernement.
Le dispositif du 49 alinéa 3 remet en cause une chose, c'est on dit à l'Assemblée nationale, tu ne délibéreras pas sur ce texte de loi. Ça porte atteinte quand même, sur le principe, à la démocratie représentative. Mais on lui donne la possibilité de le censurer.
C'est parti. La présidente Yael Braun-Pivet.
Bonjour à tous, la séance est ouverte.
Qui ouvre la séance ?
Jamais j'aurais pu imaginer que ma chaîne arriverait numéro 1 monde sur un stream de l'Assemblée nationale française sur un article 49 alinéa 3 et sur l'examen d'une motion de censure. Ça, jamais j'aurais pu l'imaginer. C'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Charles de Courson qui monte à la tribune, c'est sur lui que toutes les attentions sont concentrées depuis maintenant plusieurs jours. C'est lui, le député centriste, qui a déposé la motion de censure du groupe Les Indépendants.
Pour la première fois depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a de l'enjeu à l'Assemblée nationale. Et ça, ça a généré de l'audience, ça a généré beaucoup d'intérêt.
Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues.
Allez, c'est parti.
Nous voyons un pays qui se déchire, des institutions bloquées, une démocratie aujourd'hui.
Je vous remercie de conclure, mon cher collègue.
Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver le chemin de l'écoute.
Je vous remercie. Je vous remercie de bien vouloir quitter la tribune, mon cher collègue.
Eh ouais, faut pas pousser Charles. Il est en train de vivre le plus grand moment de sa carrière après 30 ans.
Charles de Courson se retrouve propulsé sur le devant de la scène médiatique alors qu'il n'y est pas du tout habitué. C'est plutôt un vieux monsieur. C'est pas quelqu'un de très à l'aise sur les plateaux, dans les médias et sur Internet encore plus. Et Charles de Courson se retrouve une superstar à être le porte-parole de l'ensemble des oppositions coalisées au gouvernement. Et donc évidemment, on a cherché à le recevoir sur le plateau de Brexit.
Chers amis, nous allons reprendre cette émission sans plus tarder puisque nous avons le plaisir d'être au téléphone avec le député Charles de Courson. Charles de Courson qui n'est pas encore là. On va l'avoir dans quelques minutes. Charles de Courson, député de la Marne, député qui est membre de l'UDI.
On lui a proposé de faire un coup de téléphone ou de faire une visio et on s'est retrouvé dans un moment où Charles de Courson n'arrivait pas à installer une application sur son téléphone pour pouvoir faire un call. Et c'était son chauffeur qui devait appuyer sur les touches et c'était le bordel. Et nous, pendant ce temps-là, on était en live.
Et on est en train d'essayer de la voir au téléphone. Donc, on va... c'était un teasing incroyable. Parce que figurez-vous qu'avant Charles de Courson, on va retrouver une chronique absolument incroyable. C'est parti pour la vie d'Adèle. Bonsoir Charles de Courson.
C'est un passé avant ou après Charles de Courson, le rêve d'une vie.
Et donc moi je présentais, j'avais des informations dans l'oreillette en me disant Charles de Courson n'arrive pas à se connecter, il faut encore attendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et on a fini par abandonner parce qu'on n'arrivait pas à avoir Charles de Courson en direct, il n'était pas assez agile avec son téléphone.
Chers amis, je suis au regret de vous annoncer qu'on va pas pouvoir avoir Charles de Courson, on devait l'avoir au téléphone mais c'est même pas une blague, il a une connexion trop pourrie. Voilà, je peux vraiment pas vous mentir, hein, c'était vraiment la vraie raison. Désolé, on pourra pas l'avoir sur le plateau de Backseat, on a tout essayé jusqu'au bout.
La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
À 9 voix près, donc, Elisabeth Borne.
La motion de censure déposée par Mme Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
On avait presque l'impression de revivre un grand moment de parlementarisme en négatif, puisqu'en fait, c'était de l'anti-parlementarisme. En plus, il y avait un vrai enjeu, puisque la motion de censure n'a pas été adoptée à seulement 9 voix près, ce qui était vraiment inattendu. Là, pour le coup, on était très, 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 très proche d'obtenir le renvoi du gouvernement.
Le projet d'Emmanuel Macron, durant la campagne de 2017, se présentait comme quelque chose d'un peu social-libéral. Je pense qu'à l'époque, il aurait bien aimé être le Tony Blair français. Et on a vu, en fait, très rapidement qu'il y avait des tonalités non seulement très libérales économiquement, mais aussi plutôt conservatrices. On traînait un petit peu à faire adopter le projet de loi sur la PMA, qu'il y a eu un certain nombre de lois sur la sécurité, le renseignement, que Gérald Darmanin avait des propos qui et des mots, même comme ensauvagement, qui étaient adopté sans que le président de la République ne semble vraiment réagir. Il y a quelque chose qui est devenu pas juste un simple centre-droit, je pense vraiment une politique conservatrice qui se voudrait sans doute d'équilibre, mais qui, en tout cas, peine un peu à le montrer.
C'était avec Malek sur le plateau qu'on discutait de la future loi immigration. Et dans notre discussion, on s'est mis à faire une hypothèse un peu folle.
Une majorité sur un texte tient au vote ou non des élus RN. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que des ministres, est-ce que Clément Beaune, Gabriel Attal, Pape Ndiaye, accepteraient d'être dans un gouvernement où un texte tient peut-être sur... Mais peut-être que c'est que trois députés RN au sein du groupe RN. Mais ok,
Oh non, ils votent en groupe.
Ils votent très souvent en groupe parce que ouais. Le groupe RN, malheureusement, est bien tenu. Mais si un jour, ça tient à eux. Comment on réagit en Macronie ?
Comment réagit Clément Beaune ? Comment réagit Gabriel Attal ? Comment réagit Pape Ndiaye sur la question de l'immigration ?
C'est une question que je me pose.
Tiens, attends, parce que ça y est, j'ai mon esprit d'escalier là, qui commence à partir en couille. Imaginons le scénario.
Admettons
le scénario que la loi immigration arrive à l'Assemblée, que les Républicains ne savent toujours pas s'ils la votent pas, machin, etc. Surprise, à la surprise générale, à la dernière minute, les RN soutiennent le texte et c'est grâce aux RN que ça passe.
Et ouais, mec.
Marine Le Pen passe pour regardez, je suis responsable, je peux voter des textes, même avec un Emmanuel Macron que je n'aime pas, mais c'est dans l'intérêt supérieur des Français, blablabla, l'immigration.
Politiquement, c'est très habile, politiquement, c'est smart.
Pourquoi ?
Et là, je suis d'accord avec toi, qu'est-ce qu'il va faire Clément Beaune ?
C'est prémonitoire. Je suis Clément Beaune, jusqu'à récemment ministre des Transports et avant ministre de l'Europe. Pour moi, le déterminant principal ou le problème principal qui m'a fait exprimer ce que j'ai exprimé, c'était pas tellement le vote RN, même si ça crée un malaise. Et de leur part, c'est dit d'ailleurs dans la vidéo prémonitoire, c'est un coup, c'est une habileté. C'est pas ça qui va nous déterminer. Ce qui va nous déterminer, c'est le fond. Parce que malheureusement, on n'est jamais à l'abri sur n'importe quoi d'ailleurs. C'est plus sensible sur l'immigration, mais que le RN dise tout d'un coup, tiens, on va voter. Et ça peut être vrai pour une proposition de loi de gauche comme une proposition, comme un projet de loi du gouvernement. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas malheureux et que ça ne crée pas un malaise, ça crée un énorme malaise. Mais le sujet central, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le fond. Et moi, j'ai exprimé mes doutes et mes critiques là-dessus. Pas sur du chantage ou pas sur de la tactique, mais sur du fond. Voilà. Et puis, ça n'a pas porté tant chance que ça. Mais ce n'est pas grave.
C'était un peu dormant. Cette porosité entre le camp macroniste et l'extrême droite. Et ce qu'on a vu cette année, c'est clairement une incorporation de tous ces thèmes par la Macronie, avec le point culminant qui était la loi asile et immigration. Donc là, il y a plein de digues qui ont sauté.
Baxit se donne une place spécifique. Nous voulons traiter de la réalité de ce qu'est l'extrême droite. On est en train de vivre une période où on a un retour des ratonnades dans les rues. On a des gens qui sont en danger physique, y compris des membres de l'équipe de Baxit qui sont en danger d'agression de la part d'une extrême droite qui est de plus en plus libre.
Et j'accueille sur ce plateau qui nous rejoint Yann Castagnier. Salut Yann. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Baxit. Yann, tu es photojournaliste, tu es spécialiste de l'extrême droite et tu couvrais cette fameuse manifestation samedi dernier pour Mediapart.
Apparemment, j'étais connu plus que ce que je croyais dans ce milieu. Ils m'ont repéré dès le début et notamment un ancien de l'Action française en fait, qui a basculé au GUD. Alors, il repoussait tous les photographes. La police m'a pris derrière, m'a débriefé. Je leur ai fait tout mon historique de reportages que j'avais fait sur eux et que du coup, apparemment, ils étaient énervés. Et ce qui s'est passé, c'est que le policier me débrief et je suis direct pointé du doigt par trois gars cagoulés qui disent c'est lui. Et donc là, je comprends qu'en fait, finalement, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Moi, je me suis dit, les gars qui sont passés de l'Action française au GUD, ils assument leur radicalité. Mm-hmm. Presque, ils sont contents d'être là. Donc ça ne dérange pas d'être pris en photo. Bon, il ne s'est pas passé ça, en fait. Ils étaient beaucoup plus énervés que ce que je croyais. On continue. Et puis, en fait, après, voilà, je vois surgir Lousteau que je prends en photo. Mm-hmm. Et ça, je pense que ça a déclenché encore plus d'hostilité.
Lousteau, un ancien responsable du Rassemblement national.
Ancien responsable qui a été élu du Rassemblement national jusqu'en 2021. Mm-hmm. Et en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir pression sur coup de pression. Et à la fin de la manif, je vais me faire grosso modo un petit peu entouré. Donc les policiers vont me dire « restez près de nous ». Et oui, franchement, là, la personne en charge du dispositif a été top. Et en fait, à la fin de la manif, c'est même le policier qui dit à sa collègue « bon, ben lui, on va le sortir parce qu'il va se faire casser la gueule sinon ». Ils m'ont raccompagné jusqu'à mon scooter. Et ce qui est taré, c'est que Lousteau m'a suivi jusque-là.
Alors qu'il y avait deux flics qui te raccompagnaient.
Et en mode comment
En mode, ils me suivaient, ils téléphonaient en même temps. Ouais. Donc je pense qu'ils devaient peut-être dire où j'étais.
Photo, machin.
Il m'a pris
en contact avec les autres. Ouais.
Et en fait, après, une fois que j'ai fait semblant de passer près du scooter, parce que j'ai dit aux policiers en charge du dispositif, en fait, il y a un ancien gudard là qui nous suit. Et là, donc, on fait semblant de passer devant le scooter. Ils me disent, monsieur, il faut cacher vos plaques d'immatriculation, en fait. On a fait diversion, on a tourné, et c'est la policière qui m'a aidé à accrocher mon écharpe autour de ma plaque d'immatriculation.
Pour que tu puisses te barrer.
Pour que je puisse me barrer. Et là, Lousteau vient nous voir et fait « c'est pas bon ». Devant la policière. Et je lui fais « c'est quoi qui est pas bon ?» Il fait « de la pluie ». Et en fait, on sait, c'est pas bon, c'est quoi, c'est, ils ont chopé ma plaque, c'est pas bon pour toi, tu vas prendre cher derrière. Voilà. Mais il s'est joué sur les mots comme
ouais,
ça.
Il joue à l'intimidation.
Ouais, d'accord, c'est une intimidation.
Et en mais fait, voilà, ça marche, hein, j'ai envie de dire, quand tu travailles sur l'extrême droite, quand t'es dans leur collimateur, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire suivre.
Ouais,
de me faire suivre, me faire prendre en photo, de devoir péter un peu une filature, parce que tu vois le gars que là, lui, il t'a repéré, lui.
Ça fait une dizaine d'années que les groupuscules d'extrême droite regagnent un petit peu en vitalité, on va dire. Moi, je le vois particulièrement parce que j'habite à Lyon et qu'à Lyon, c'est un noyau dur vraiment de il y a quand même beaucoup de monde. Ils parlent entre eux. Enfin, c'est des petites chapelles, hein. Mais c'est des petites chapelles qui communiquent beaucoup entre elles, qui sont capables de maintenant de structurer des temps forts dans lesquels ils vont se retrouver, faire ce qu'on appelle une interfaf, où ils vont converger tous vers une ville comme ils l'ont fait pour Romans-sur-Isère. Bon, alors moi, ça fait longtemps que j'essaie d'alerter là-dessus et de dire c'est chose qui est en train de se passer dans les villes de province. Le truc, c'est qu'à Paris, pas trop. À Paris, on n'a pas, ils sont pas structurés autant, ils ont pas autant de lieux dans les villes de province. Ils ont en général, c'est structuré autour d'un bar, autour d'un petit groupe. Et puis, mine de rien, il n'y a pas besoin d'être si nombreux que ça pour tenir une ville de province et y faire régner un certain climat.
Je m'appelle Safia Aitouarabi, j'ai 22 ans, je suis étudiante en sociologie et je suis militante antiraciste. Fin 2022, début 2023. C'est la première fois que je rencontre, par exemple, le GUD. C'est aussi des nationaux révolutionnaires qui en rien ne revendiquent Macron ou la politique libérale. Et je crois qu'ils ont un sème particulier à voir qu'effectivement, c'est toujours notre camp, le camp de la bataille sociale, le camp de la gauche, qui est toujours à la pointe, justement, de la bataille des retraites, de revendications sociales. Et qu'en fait, ils continuent d'être des marginaux qui, par contre, gagnent culturellement sur certains points quand on entend, par exemple, une Valérie Pécresse en pleine campagne présidentielle parler de grands remplacements.
L'extrême droite gagne même dans le combat du langage parce que, justement, il y a des mots qui sont repris comme tiers-mondialisation et d'autres termes qui sont mal utilisés comme racisme social, etc.
Clairement, je me suis radicalisée en 2023. Ça, c'est sûr. Mais même avant. Enfin, le processus n'est pas... je me suis pas réveillée un beau matin en me disant « ça y est, je suis radicale ». Non, pas du tout. Le jour de l'assassinat de Naël, pour moi, ça a été une journée très marquante. Parce qu'en fait, ça nous a rappelé que dans notre société, il y a des fractures très fortes. Il y a aussi des inégalités et des choses qu'on n'arrive pas à résorber. Il y a un racisme d'État aussi, il faut le dire. Pour moi, ça a été ouais, très certainement un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
On est fin juin 2023 et à Nanterre, cité Pablo Picasso, qui est un quartier populaire, voilà, un jeune sort de chez lui, prend une voiture avec deux amis à lui, contrôle de police, et on voit un policier à l'extérieur, un motard, d'abord le tenir en joue et ensuite lui tirer dessus. C'est indubitable, en voyant la scène, qu'il n'y avait pas de danger pour le policier, qu'il n'était pas dans un état de légitime défense. Bonjour, je m'appelle Latifa, j'ai 34 ans, je suis directrice de l'organisation Mobilisation Citoyenne, Le Mouvement. J'ai été, voilà, comme tout le monde, particulièrement touchée, etc., par le décès de Naël. D'une part, parce que c'est un quartier où j'ai vécu longtemps, etc. Donc, voir la violence et le décès d'une personne qui aurait pu être une connaissance dans un environnement où on a eu des souvenirs plutôt heureux, c'est aussi compliqué. En tout cas, ça, c'est à titre personnel. Mais de manière plus générale, c'est d'un point de vue politique et militant, et même médiatique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Comment on se structure? Comment on construit, juste de manière très idyllique, un monde meilleur, mais en tout cas des rapports police-population qui soient différents. Et jusqu'à quand on va avoir cet effet de répétition macabre de un décès, des mobilisations, et puis une procédure judiciaire à n'en plus finir. Et à la fin, aucune mesure politique.
La mort de Naël a été quelque chose de très dramatique et qui a beaucoup touché les jeunes, qui a beaucoup touché le public de Backseat. Et c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas eu Backseat à ce moment-là. On était en pause, on était en vacances, on avait prévu de pas faire d'émission. Et donc, on est passé à côté de cette actualité dont on aurait bien voulu proposer un traitement, interviewer des gens intéressants pour avoir une lecture, pour avoir une critique, pour avoir une pensée, pour essayer de mettre en mots et mettre en thèse ce qui était en train de se passer, qui était très émotionnel. Et évidemment, c'était un drame absolu et la réaction derrière de beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires, c'est quelque chose aussi qu'il aurait fallu mettre en mots. C'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas eu Backseat à ce moment-là.
Voilà, c'est mieux.
Peut-il être tué par un policier en République française ? Pourquoi 16 personnes ont-elles trouvé la mort depuis un an et demi en France pour refus d'obtempérer ? Vous m'avez dit hier, les émeutes que connaît le pays n'ont rien à voir avec la mort de Naël. Pire, vous voulez faire peser sur nous la responsabilité de la colère quand elle prend racine dans un meurtre odieux.
Depuis une semaine, face aux violences qui ont éclaté, je cherche vos condamnations et j'entends des excuses.
Elisabeth Borne qui charge la présidente Mathilde Panot et qui lui reproche de ne pas condamner les violences urbaines, mais de les excuser.
Avec votre parti, vous instrumentalisez un drame. Vous refusez de condamner clairement les violences. Vous refusez d'appeler au calme alors que nos policiers et nos gendarmes luttent pour préserver l'ordre républicain. Alors que des sapeurs-pompiers combattent des incendies, alors que des maires sont aux côtés des habitants et sont la cible de violences.
J'ai plus forcément confiance dans l'action des politiques, mais je pense qu'il faut continuer de les confronter pour les pousser à leur rappeler la réalité, leur rappeler leurs engagements aussi. Il y a des engagements qui ont été tenus à chaque fois qu'ils se sont présentés devant les Français. Ils ont un petit peu tendance à l'oublier ou alors ne prendre qu'une partie qui les arrange. Donc je pense que c'est notre rôle aujourd'hui. Vigie, c'est un terme un peu années 80, mais je sais pas, cet élément de rappel.
Je vous montre un petit peu.
Allez, excusez-moi.
L'Agora, regardez, le grand espace. On va passer entre eux, les personnes qui assistent à l'émission. Et ça chante.
Rarement j'ai fait un entretien politique qui avait une telle ambiance de meeting avec un écho avec le public aussi persistant.
Moi, je sais que je suis pas forcément du même bord politique que les gens qui étaient présents à la fête de l'UMA. Donc j'avais un peu plus cette pression de le public, si ça se trouve, il va m'accueillir en me sifflant ou ces trucs-là, quoi. Je me souviens, 2 ou 3 minutes avant qu'on rentre en plateau, tout le monde se met à chanter « On est là, on est là ». Et là, on était comme ça avec les autres chroniqueurs. Franchement, vrai coup de stress.
Je n'ai jamais vu autant de personnes, les amis. Regardez, de là, ça démarre là. Et regardez tout là-bas.
Jean-Luc Mélenchon, ces 20 dernières années, une période où ça a été un habitué de la fête. Pour lui, il y a un enjeu à être présent à la fête de l'humanité, c'est partie de sa stratégie politique, et puis ça correspond voilà, à une alliance électorale qu'il a engagée avec le Parti communiste, jusqu'en 2016, qui est quand même voilà, un point de rupture et un changement stratégique pour lui. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il va un peu boycotter la fête de l'humanité, je pense essentiellement parce qu'il craint le contact avec le peuple militant de la fête, notamment les communistes, avec qui le divorce a été assez douloureux.
Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir accepté notre invitation.
Il accepte cette invitation. À backseat, je pense que le format n'est pas forcément celui qu'il aurait préféré, parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il vient à la fête de l'UMA, je pense qu'il a plutôt envie de parler directement à son public, aux visiteurs.
Jean-Luc Mélenchon, on a beaucoup de questions à vous poser, on n'a qu'une heure, et on voulait commencer...
C'est pas moi qui ai choisi de venir à 4, là, hein.
Justement,
1, 2, 3, 4.
On va faire circuler.
C'est pas quelqu'un qui aime tellement l'exercice de l'interview, qui a un rapport très conflictuel avec la presse. Et là, c'est vrai que c'est un format auquel il n'est pas habitué. Tout ce contexte explique peut-être sans doute un peu la tension qu'on a pu ressentir lors de cet entretien avec Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Mélenchon, vous proposiez dans votre programme de 2022 des mesures pour garantir l'indépendance éditoriale et juridique des journalistes et des rédactions vis-à-vis de leurs actionnaires. Il y a quelques semaines, il y a 95 journalistes sur 100 du JDD, et j'en fais partie, qui ont quitté la rédaction après l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Et on a réclamé pendant 40 jours de grève à peu près la même chose que vous. On a l'impression que c'est un combat qui ne vous a pas plus touché que ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez masqué vos convictions parce que c'était le JDD ou pas ?
Non, le JDD était un journal dont le dernier numéro paru avant le rachat était une une avec Madame Le Pen, ses progrès et le reste, et
contre
une demi-page d'insultes contre les insoumis.
Il faut aller plus loin que les unes, par
contre. Oui.
Non, il faut aller plus loin.
On a le droit à la dignité, figurez-vous.
Oui, bah, les journalistes aussi.
Vous n'êtes pas une institution devant laquelle nous allons dire « Vous dites ce que vous voulez ». Quand vous dites quelque chose que nous condamnons, et pas une fois, mais deux fois, mais trois fois, mais quatre fois, mais cinq fois, on a le droit, ne venez pas pleurer dans notre gilet, surtout pour à la fin faire quoi ? Un journal qui va donner la une à Madame Le Pen, ce qui se faisait avant. Alors je viens maintenant. Mais vous savez comment se fait un journal.
Sachant que je préparais ma question depuis 3 jours, donc je m'étais préparée à recevoir ces foudres. Et là, Jean-Luc Mélenchon me dit mais vous étiez déjà un média d'extrême droite. Vous ne recevez que ce que vous avez mérité un peu. C'était un peu le discours moi que je me suis pris dans la tronche.
On peut peut-être faire la nuance entre la ligne éditoriale d'un titre que vous critiquez et la nécessaire solidarité à l'égard de journalistes qui sont précaires et parfois qui travaillent là parce qu'ils doivent bouffer. On peut faire cette nuance quand même, non ?
Non, madame.
Ah bon, bah alors...
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un principe dans la vie, moral et philosophique, qui s'appelle la responsabilité personnelle. Si vous acceptez de travailler pour un journal qui crache dans la gueule des travailleurs et qui insulte les insoumis, assumez-le. Moi, j'assume.
Il a totalement retourné le public à sa cause. On en a un peu rigolé entre nous après, mais c'est devenu le meeting de Mélenchon.
Pour lui, c'est vraiment, je pense que ce moment, c'est sa rentrée politique, quoi.
Abattez la citadelle ! N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer, d'arrêter, de céder, d'amollir. Faites mieux ! Abattez ce système !
Oula, moins fort. Oula, et oh ! Bonjour. Ça va ? Allez, on se réveille. Il est 15h22 du matin. J'ai dormi quelques heures cette nuit, dans une tente. Et je suis rentré ce matin. Bien l'oreille droite, Jean. Ça siffle encore. t'as abattu la citadelle. C'était bien de se faire engueuler par Méluche. Oh, c'est une expérience à vivre. Hein. c'est off. Oh, il faut le vivre. J'espère que vous l'avez vécu parce que voilà. Mais non. C'est. Mais de toutes les façons, il y a un moment dans l'émission, j'ai compris qu'en fait, ce qui est en train de se passer sur le plateau, c'est en soi un fait politique. Et en fait, tu peux pas te battre. Et ça sert à rien de se battre. Il faut juste accepter l'état de fait. Qui est que Jean-Luc Mélenchon est dans cet état, que le public est dans cet état, et que c'est en soi une info. Qu'on est à la fête de l'UMA, qu'on est Baxit, que c'est l'UMA, que c'est la NUPES, etc. Donc en fait, on est forcé d'accepter une réalité politique qui est ce qu'elle est. Et on savait pas, on se disait, bon, bah voilà, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, je sais pas, il peut arriver fatigué, pas réveillé, il peut arriver dans un état d'esprit d'apaisement, parce que c'est l'UMA, parce que c'est important de se placer en rassembleur de la gauche, etc. Il peut arriver en mode conflictuel, avec l'idée de tartiner la gueule de ses adversaires. Bon, on savait pas. Bon, bah on a su assez vite sur quel pied danser. Et là, du coup, bon, bah, notre petite préparation d'émission...
Votre origine, votre religion, là où vous avez grandi, vos moyens financiers, peu importe tous ces paramètres-là, restons soudés ensemble et contre la violence, voilà.
T'as vu le tweet de Kamel ? Non, il a dit quoi ? Ce qu'il se passe en Palestine est inhumain, je n'ai pas les mots face à la violence des vidéos, qu'Allah vienne en aide au peuple et apporte la paix, c'est désolant d'être aussi impuissant face à une situation aussi grave, Inch'Allah Khail, et il a totalement raison.
Là, il se passe quelque chose de grave, les médias, en tout cas en France, s'en battent les couilles, justement, ils font que de la propagande pour l'autre camp, alors que pour le gouvernement israélien qui est là, qui fait des massacres tous les jours.
Il y a de vraies différences générationnelles dans les médias qui sont utilisés pour s'informer. Et les jeunes générations utilisent en particulier Internet, les réseaux sociaux pour avoir accès à de l'information. Sur ces espaces en ligne, ils sont généralement extrêmement polarisés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats qui sont souvent extrêmement virulents et qui peuvent amener justement certaines personnes à devoir se positionner sur des sujets qui sont clivants. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une transformation de ce que sont ces personnalités d'Internet qui, de base, n'étaient pas forcément des personnalités avec une parole politique, mais qui sont finalement forcés à en avoir une dans des circonstances particulières.
Après les attaques du 7 octobre, Léna Situation, qui est la plus grosse influenceuse française actuellement, a publié en story Instagram des contenus, vidéos, messages, relayant la souffrance des Palestiniens. Elle a par la suite supprimé ces messages parce qu'elle recevait un flot d'insultes, de menaces de mort par messages privés, sur les réseaux sociaux, etc. Elle est déjà de base régulièrement harcelée. Et là, en plus, sur ce sujet qui est extrêmement sensible, les attaques étaient vraiment décuplées. Elle a mis des messages ensuite en story pour rappeler son soutien au peuple juif. Et elle disait aussi surtout qu'elle savait plus comment communiquer. Parce que quand on est une personnalité publique sur les réseaux sociaux comme Léna Situation, ça devient très 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 délicat de s'exprimer, d'exprimer une opinion politique, quel que soit le sujet. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que pour un influenceur, c'est très difficile de passer entre les gouttes du discours politique. Il y a des gens qui attendent vraiment aujourd'hui que leurs influenceurs préférés se positionnent.
Le jour des attentats du 7 octobre, moi j'ai été terrifié. C'est le principe d'une attaque terroriste, tu me diras. Mais j'ai été terrifié et je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait en parler. Comment est-ce qu'on va traiter une actualité aussi lourde?
On a tous grandi avec ce conflit. J'en parlais avec mon père, il est né, ce conflit existait déjà. Je suis né, ce conflit existait déjà. Et les jeunes qui nous regardent, les plus jeunes qui nous regardent, qui sont nés dans les années 2000, sont nés, ce conflit existe déjà, il est encore là. Il est structurant, ce conflit, y compris dans le paysage politique français. On l'a abordé au cours de la première partie. Mais il est aussi sensible, il provoque des débats houleux, il évoque des débats passionnés. Et il rend l'exercice, par exemple, de cette émission Backseat ce soir, extrêmement difficile, pour pas dire impossible. On a souhaité ce soir ne pas recevoir d'invités politiques parce qu'on s'est dit que c'était pas le temps de donner la parole aux politiques, qu'on voulait donner la parole à d'autres personnes, à des personnes qui ont eu le courage de prendre la parole ces derniers jours pour s'exprimer sur ce sujet et pour donner et dire ce qu'ils et elles ont vécu. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau et je vous demande de l'applaudir, Anna Assouline. Bonsoir Anna.
Il s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien. C'est un fait. Et je crois qu'ici, on
c'est
est tous
unanimes. C'est un État colonial, pas comme les
condamner...
autres, c'est ça?
Non.
Pas comme les autres colonies.
Alors même que
le mandat anglais a été aussi perçu comme une intervention coloniale.
Il n'y avait pas d'État avant.
Non, il n'y avait pas de.
Oui, mais bon, pour les populations ici, c'est les Anglais décident, puis ensuite, pof, ça change. Il y a quand même une intervention de l'extérieur.
Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Donc aujourd'hui, calquer ce schéma complexe sur une réalité coloniale telle que nous on l'a dans nos schémas historiques en Europe et ailleurs, c'est déjà une grille de lecture qui est fausse et qui ne permet pas de comprendre ce qui s'est passé et les enjeux, etc. Donc, parler de la colonisation des territoires occupés illégale, évidemment, et il faut la condamner. Et d'ailleurs, à titre personnel, je la condamne sans la moindre hésitation. Mais nourrir
ce que vous
une...
voulez dire, c'est un État colonial qui a la particularité de n'avoir nulle part ailleurs où aller. De toute façon, donc
non, c'est pas un État colonial.
C'était donc cette phrase polémique qui essayait d'exprimer le fait que le sionisme, c'est-à-dire la volonté d'avoir un État refuge pour les Juifs dans le monde, ne pouvait pas être essentialisé à la question du colonialisme. Et sur cette intervention-là, j'avais fait une dichotomie, et avec le recul peut-être pas de la façon la plus claire qui soit, il me semblait essentiel, à mon sens, de différencier l'existence d'une colonisation, notamment en Cisjordanie, avec un régime extrêmement inégalitaire à la défaveur des Palestiniens qui sont sur place, et ce qu'on retrouve dans certains discours au sein de la gauche radicale, qui explique qu'au fond, Israël est un État colonial depuis 75 ans, c'est-à-dire depuis sa fondation.
Je pense que ce plateau avec Anna Assouline, Raphaël Anselem et Karim Khatan, qui arrivent qu'à la fin, était un peu trop proche de ce que proposaient aussi les autres plateaux. Il y avait l'idée de recevoir des gens qui allaient incarner une voix un petit peu différente, c'est-à-dire pas franchement meilleur Habib, quoi, pour défendre la colonisation, mais des gens de gauche qui allaient être un peu plus critiques, évidemment, du gouvernement Netanyahou, par exemple, sans remettre en question pour autant la colonisation.
La réaction différents spectateurs de l'émission sur les réseaux sociaux, ça a été très clairement, je ne peux pas le dire autrement, ça a été des vagues de harcèlement. Ça, je ne peux pas minorer ce qui s'est passé. Ça a été tous les jours des messages, tous les jours des interpellations pendant plusieurs semaines, et avec des expressions qui étaient violentes dans le sens « tuer un fasciste d'extrême droite génocidaire ». Avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus un fonctionnement de la société en silo, c'est-à-dire que vous avez un monde politique de gauche, un monde politique central, un monde politique de droite, et vous n'avez pas forcément d'interconnexion entre ces différents espaces. Ou ces interconnexions, elles vont avoir lieu de manière extrêmement virulente, avec des clashs. Avec le conflit israélo-palestinien, ça s'est extrêmement vu, parce qu'on avait des communautés en ligne qui étaient de base extrêmement politisées, qui sont venues s'affronter sur ces espaces en ligne, et ça peut derrière avoir un effet sur un public qui n'était pas forcément politisé de base, qui va être soumis à ce contenu qui est extrêmement partisan et qui peut ne pas forcément avoir toute l'intégralité des éléments de compréhension du sujet pour pouvoir se positionner.
Il y a un com qui dit donc on légitimise les attaques du 7 octobre du coup in fine, toujours pas. Pas du tout. C'est toujours
merci
un attentat.
De le relever, merci.
Je veux dire, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On a le droit de pointer du doigt, enfin pas de pointer du doigt, mais de dénoncer un attentat commis par le Hamas le 7 octobre et de dénoncer d'un autre côté ce que fait Israël depuis 3 mois maintenant. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Arrêtons de vouloir tout le temps nous faire prendre des positions. Je voyais un com tout à l'heure qui me disait Sacha, on attend ton avis. Bah non, désolé, voilà, j'ai le droit de dénoncer le Hamas comme j'ai le droit de dénoncer la politique d'Israël. Il n'y a pas forcément d'avis à avoir. Laissez-nous tranquilles un peu.
On a le plaisir de recevoir Rima Hassan. Merci beaucoup de prendre du temps pour venir nous parler.
Je suis la présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est une ONG que j'ai fondée il y a 4-5 ans maintenant et qui travaille à documenter la question de l'encampement à travers le monde, donc de faire des études sur les camps qui sont installés à travers le monde.
Là, on se rend pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer, mais c'est la première fois qu'on est témoin d'un génocide en direct et qui est documenté, ce que disait la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, qui est documenté par les personnes qui subissent ce génocide. Et j'ai l'impression qu'en fait, partout, on est dans une forme de paralysie.
Plus je prenais la parole médiatiquement, plus j'étais victime et la cible de menaces, de morts, de viols, et c'est ce qui a aussi motivé mon départ. La majorité des insultes que j'ai reçues ou des menaces de mort, de menaces de viol d'ailleurs, c'est intéressant je trouve de le pointer aussi, c'était essentiellement des hommes quoi. C'était à 97-18%, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main le nombre de femmes que j'ai identifiées qui m'ont écrit sur mon téléphone ou qui m'ont appelé, mais c'est essentiellement des hommes.
C'est une génération qui a été mine de rien nourrie aussi à certains discours décoloniaux, avec des gens dont, en effet, la colonisation, c'est pas il y a très longtemps. C'est des mémoires qui sont encore vives.
Je vous propose que nous accueillions sur ce plateau une nouvelle invitée, Safia Haït Warabi. Salut Safia.
Salut.
Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat, ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. À l'époque, tu étais vice-présidente d'SOS Racisme et depuis, tu as démissionné.
Qu'est-ce qui
s'est passé ?
Nous, on avait constaté, dans le secteur notamment étudiant, mais aussi avec d'autres militants jeunes, qu'on avait l'impression que la direction participait à l'invisibilisation ambiante des victimes palestiniennes.
D'accord. C'était un premier reproche que tu faisais.
C'était une première chose, sauf que nous, on pensait que ça pouvait être réglé par des cadres de discussion démocratiques.
Moi, j'ai vu plusieurs choses sur les réseaux sociaux, des jeunes qui partageaient des trucs ultra contradictoires dans mon entourage, certains qui commençaient à partager la communication de Tzal, et ceux qui le faisaient m'envoyaient des messages en me disant « Ouais, j'ai l'impression de partager des trucs archi-problématiques de droite et tout, Safia, est-ce que tu peux nous aider ?» Et d'un autre côté, des personnes qui se questionnaient sur est-ce que c'était des actes de résistance ou pas, parce qu'en même temps, il s'est passé des exactions horribles, mais en même temps, il y a le contexte, il y a ceci, il y a cela. Et moi, ça m'a poussée à faire un thread Twitter, à faire une communication sur mes réseaux sociaux pour essayer d'apporter du contenu pédagogique aux jeunes que je connaissais. 24 heures après, le président d'SOS Racisme m'a demandé d'effacer ce thread Twitter. Il me signifiait que des personnes lui disaient qu'ils avaient l'impression que je justifiais les exactions du Hamas. Et à ce moment-là, j'ai compris que vraiment ça puait.
Face au fait que je ne pouvais pas m'exprimer publiquement, face au fait que des militants avaient beau me demander qu'ils n'avaient pas de cadre d'expression démocratique, on se retrouve avec un communiqué le 2 novembre, jour où l'ONU parle d'un risque grave de génocide, jour où il y a 10 000 morts à Gaza, dont un tiers d'enfants, qu'Israël avait le droit de se défendre.
D'accord.
Il y avait pléthore de revendications, dont le cessez-le-feu, dont la libération des otages. Mais en fait, un 2 novembre, avec une telle gravité, dans une guerre qui éloigne tous les processus de paix possibles, qu'on parle d'un État ou de deux États, ce n'est pas possible de dire quelque chose comme ça.
Safia, qui quitte SOS Racisme alors qu'elle était vice-présidente, c'est un moment politique ce qu'elle est en train de faire au sein du mouvement antiraciste. Il y a un moment de bascule. Il se passe quelque chose autour de l'attaque de Gaza qui motive beaucoup de militants antiracistes à revoir leur positionnement, à revoir les structures qui ont toujours été traversées par des contradictions, et c'est normal, mais qui là vivent des moments charnières.
Je pense que notre génération, elle a besoin de pédagogie. Qu'est-ce que c'est que le Hamas? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'État d'Israël? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir des directions d'extrême droite au Moyen-Orient qui se font face? Quelle est la spécificité des attaques du 7 octobre avec des violences sexistes et sexuelles qui ont eu lieu? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir un nettoyage ethnique à Gaza?
Il y a une responsabilité importante dès lors qu'on s'adresse à un public et qu'on aborde ces sujets-là, ne serait-ce que dans les mots qu'on utilise, qualifier l'attaque de terroriste, qualifier ce qui est en train de se passer à Gaza de génocide, c'est des choses, il faut prendre la responsabilité des mots qu'on utilise. C'est quelque chose de très difficile.
Est-ce que tu vas bien niveau santé? Tu as l'air vraiment fatigué. Alors moi, niveau santé, ça va pas très fort en ce moment. Je fais une rechute de dépression. Je suis malheureusement dans une phase dépressive dont je n'arrive pas encore à voir le bout. Mais ouais, pour ne rien vous cacher, je suis bipolaire, donc je fais des phases de dépression et des phases de hypomaniaque. Et là, en ce moment, je suis dans une phase dépressive, donc je n'arrive pas du tout à suivre l'actualité. Je dors. Je suis sous sédatif la plupart du temps, donc je fais dodo.
En décembre, malheureusement, j'ai été rattrapé par la maladie et j'ai fait un épisode dépressif très très grave qui m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Donc j'étais complètement cramé. Le trop-plein était énorme. C'était beaucoup trop. Enfin, moi, j'en pouvais plus. Il y a des moments où l'actualité politique est véritablement irrespirable. Il y a d'autres moments où il y a des petites victoires. L'IVG dans la Constitution est une victoire. Il y a des moments comme ça où on respire, où on trouve que ça a quand même du sens de se battre et de parler de politique. Il y a d'autres moments, comme la fin de l'année 2023, où juste on n'en peut plus.
J'ai pu me reposer, me ressourcer, avoir un traitement médicamenteux et un accompagnement psy assez lourd. Et j'en suis sorti ce matin. Donc on a fait coïncider pour que je puisse passer une tête ce soir pour vous passer le bonsoir. Vous dire que j'étais presque de retour. Je dis presque parce que je ne vais pas pouvoir reprendre le rythme de stream que j'avais avant les vacances, un stream quotidien. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai encore beaucoup de médicaments. Je suis encore très fatigué.
Parfois, je me demande si j'aurais pas intérêt pour ma tranquillité à raccrocher les crampons et à plus faire de politique, à plus parler de politique. Mais ce serait abandonner la promesse que j'ai faite au public et surtout aux jeunes de s'intéresser, de leur montrer que c'est accessible et que ça vaut le coup de s'intéresser à la politique. Donc je prends sur moi, je ne suis pas le porte-parole de la jeunesse, mais je suis un militant de la jeunesse et de l'éducation populaire depuis que j'ai 17 ans. Ça a toujours été mon engagement chevillé au corps. J'ai commencé dans l'associatif et je le perpétue aujourd'hui sur Internet à ma manière. Et ça ne fait pas de moi un porte-parole des jeunes. Je considère que la parole des jeunes n'est pas représentable. Laissons les jeunes être ce qu'ils sont, jeunes, et permettons-leur d'être au cœur de la République, au cœur des institutions, de vivre, d'avoir tous les dispositifs, d'avoir tous les espaces dans lesquels ils peuvent s'exprimer.
Peut-être 2024, on passe pas plein d'espoir fou, on se dit juste, on passe 2024. Pas besoin d'avoir des attentes folles, on n'est pas obligé non plus de se dire qu'on va tous mourir. Juste une année, on vit, c'est sympa.
J'espère plein de choses pour 2024. J'espère déjà que... pour les élections européennes de 2024, la gauche, au sens large, parvienne à faire reculer l'extrême droite, qu'on arrive à déjouer les pronostics.
Je l'espère, je ne serai
plus témoin, pas témoin d'un autre génocide. Et je crois qu'on a une responsabilité, encore une fois, de se questionner sur ce qu'on peut faire. Je rejoins la liste de la France Insoumise pour les européennes.
Je pense que pour la première fois de ma vie, je suis pas très optimiste pour l'année 2024. Et je pense qu'on va vers une suite irrémédiable, malheureusement, avec cette confrontation face à l'extrême droite et la compétition de qui ira à la mesure la plus à droite possible.
Moi, je souhaite la chute de ce gouvernement. Je souhaite le plus grand mouvement social qu'on ait jamais vu. Et je souhaite une gauche forte.
Je rêverais que l'extrême droite se casse la gueule aux européennes.
Je suis sans espoir.
Moi, je souhaiterais en fait qu'on renverse l'utopie. On nous fait croire que les utopistes, ce seraient les gens qui rêvent d'une autre société, d'un projet alternatif. Moi, je pense que la vraie utopie, c'est de faire croire aux gens qu'on va pouvoir continuer à vivre dans de la pauvreté et dans un temps de guerre. C'est ça la vraie utopie.